En attendant de retrouver vos habitudes à la rentrée, on vous propose de découvrir cette nouvelle émission dont vous pouvez retrouver tous les épisodes sur franceculture.fr et l'application Radio France. France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbeau.
C'est quoi ce truc-là?
Je sais pas.
C'est une grande découverte.
Élémentaire, mon cher Watson.
Je comprends pas.
Mais si, réfléchis une seconde. C'est de la physique.
Réponse.
C'est quasi certainement le boson de Higgs.
La découverte du boson de Higgs mêle deux histoires, celle de la théorie et celle de la détection. En 1964, le modèle standard de la physique des particules est presque achevé, mais quelque chose coince. D'où vient la masse des particules? Higgs, Brout et Englert, trois théoriciens, décrivent une solution, l'existence d'une particule et surtout de son champ, le boson dit de Higgs. Sur le papier, tout fonctionne, mais encore faut-il le voir pour le croire. C'est la seconde partie de l'histoire, avec la construction du grand collisionneur de Hadron du CERN, qui aboutit 48 ans plus tard à sa détection. Comment s'est construite la théorie derrière le boson? Quel est le rôle de la collaboration internationale dans sa détection? Comment la découverte du boson de Higgs a-t-elle changé le monde? Et pour explorer cette histoire double, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Couder. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au service de physique des particules du CEA Saclay, spécialiste de la physique du boson de Higgs et membre de la collaboration CMS, une des deux collaborations qui a permis de découvrir le boson. On en parlera tout à l'heure. Et en studio avec nous également, Michel Spiro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du conseil de la fondation CERN et Société, ancien président du conseil du CERN de 2010 à 2013, donc pendant la découverte de cette particule. Qu'est-ce qui fait du boson de Higgs une particule si particulière? Quelle est sa place face aux autres particules? Pour le comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière avec une archive de l'INA de 1961. Charles-Noël Martin parle de beaucoup de particules.
Alors nous avons donc une particule ici qui a créé ce que l'on appelle un méson neutre, un méson K, qui redonne naissance à deux mésons, un pi négatif, un pi positif. Le pi positif lui-même se désintègre en un mu et en un électron, Vous voyez que tout l'alphabet grec y passe, on est obligé maintenant d'inventer des symboles nouveaux pour arriver à caractériser cette complexité extraordinairement grande d'une trentaine de particules que l'on connaît maintenant.
Tout l'alphabet grec y passe, mais toutes les particules ne se retrouvent pas dans le modèle standard de la physique des particules. Michel Spiro, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'est ce modèle standard?
D'abord, ce modèle standard réduit le nombre de particules élémentaires. Il n'y en a plus qu'une douzaine. Six qu'on appelle des leptons, les électrons, les muons, les taux, les neutrinos. Et six qu'on appelle des quarks qui constituent les protons et les neutrons. Il y a trois forces auxquelles le modèle standard s'attaque. Trois forces qui, bon, si vous voulez, les particules que j'ai décrites, ce sont les briques de la matière. Et il y a trois forces qui sont le ciment qui les feront interagir entre elles. Ces trois forces sont la force électromagnétique, ça date de Maxwell, et la force faible, ça c'est plus récent, qui est responsable d'une forme de radioactivité, aussi de la fusion d'hydrogène dans le Soleil, et la force forte, qui fait interagir les quarks entre eux. Et le modèle standard a réussi à donner un cadre consistant pour décrire ces trois types de forces, et en particulier unifier l'interaction électromagnétique et l'interaction faible. Il a eu du mal à émerger parce que, comme vous l'avez dit, le modèle standard est basé sur des champs. Quand je parle de particules et de forces, en fait, ce qui est le fondamental, ce sont les champs qui remplissent tout l'univers et qui, un peu comme les ondes, hein, remplissent tout l'univers, mais qui créent ou annihilent des particules qui sont en fait à la fois des particules et des ondes. À chaque type de particule, l'électron, le quark, est associé à un champ. Et ces champs donc sont les chefs d'orchestre pour créer et annihiler des particules dans l'univers. Ils interagissent entre eux. Bien sûr, quand ils les créent, les annihilent, ils suivent des lois de conservation qui sont associées à des symétries. Donc le modèle standard est né à partir d'une symétrie. Donc ça, c'était très élégant, avec un certain nombre de lois de conservation. Mais le problème, c'est que toutes les particules avaient une masse nulle, alors qu'on sait que la masse n'est pas nulle.
On va y venir justement à ce problème de la masse, mais j'aimerais comprendre un petit peu mieux l'organisation finalement de ce modèle standard. Là, on a cité beaucoup de choses. C'est une équation générale, c'est un ordement en fait finalement de tout ça. On peut le regrouper dans un grand tableau. Le tableau existe, le tableau je l'ai sous les yeux et je vous invite à aller le regarder. On voit 6 particules d'un côté, lepton, 6 particules de l'autre, les quarks, et puis il y a 4 particules particulières qui s'appellent des bosons. Alors, question un petit peu complexe, Fabrice Couder, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un boson et ce qu'est les bosons qu'on connaissait déjà et qui étaient déjà, qu'on essayait d'ordonner dans le modèle standard de la physique des particules ?
Alors, les bosons sont des particules particulières dans le sens où on parle de bosons à partir d'une propriété de chaque particule qui s'appelle le spin. Le spin des quarks et le spin des particules de matière, on va dire, est de 1/2. Et on les appelle donc des fermions.
C'est une valeur. C'est la valeur qui est importante.
C'est la valeur. Et à cette valeur correspondent des propriétés assez particulières. Et les bosons ont un spin, en fait, un spin entier. Soit, pour les bosons du modèle standard, soit 0, soit 1. La particularité des bosons, ils obéissent à la statistique dite de Bose-Einstein. Et ce qui fait que les bosons peuvent, dans un même état quantique, s'accumuler, alors que les fermions ne peuvent pas. Donc, ce qui explique par exemple la répulsion dans la matière qui est composée de fermions, alors que si on était composé de bosons, la matière, on n'aurait plus d'interaction directe, on ne pourrait plus marcher sur le sol, on rentrerait à l'intérieur. Quoi. Ça serait, voilà.
Donc, c'est un lien avec les interactions.
Donc, c'est un lien avec la façon dont on peut stocker des particules dans certains états.
Michel Spiro, tout à l'heure, vous vouliez réagir. J'avais une question pour vous.
Oui, juste sur le spin. Donc, le spin, c'est ce qu'on appelle un moment cinétique intrinsèque, c'est-à-dire c'est une rotation de la particule sur elle-même. Les particules sont ponctuelles, donc imaginez qu'elles tournent sur elles-mêmes et qu'elles ont un moment cinétique, c'est quelque chose qui est quantique, qui n'est pas classique. Donc, le spin est par essence quantique. Et effectivement, donc, les fermions ont un spin demi-entier, donc ce sont les particules de matière, et les particules de force ont un spin 1. Et le boson de Higgs, il est encore plus particulier puisqu'il a un spin 0, c'est-à-dire qu'il n'a pas de rotation intrinsèque sur lui-même. C'est la seule particule élémentaire qui soit sans rotation sur elle-même, et ce qu'on appelle un scalaire.
Et ce que je voudrais comprendre aussi avec la mise en place en fait du modèle standard, de la manière dont ça a commencé, c'est qu'on a commencé dans les années, allez disons 50, à détecter énormément de nouvelles particules, élémentaires ou non. Et en fait, finalement, on a cherché à les ranger selon une méthode un peu logique. C'est ça la symétrie dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a essayé d'ordonner tous ensemble toutes ces particules élémentaires dans un même tableau et de trouver finalement une suite logique, enfin un lien logique entre toutes, c'est ça ?
C'est ça. Donc, j'ai bien dit que les champs obéissaient à des lois de conservation, par exemple l'énergie, l'impulsion, mais aussi la charge, et la charge au sens abstrait du terme. Il peut y avoir la charge électrique, mais il y a d'autres charges. Et c'est les lois de conservation sont associées à des symétries, et c'est cette symétrie qui est constitutive du modèle standard.
Et sur un dernier élément sur le modèle standard, c'est l'enjeu de la prédiction, c'est-à-dire que quand on a construit le modèle standard, Fabrice Couder, on n'avait pas encore tous les éléments qu'on avait réellement découverts. Donc, on arrivait, grâce à la description du modèle, à imaginer en fait des places manquantes et à tout de même le construire en fait sans ça. Il y a un aspect un peu prédictif qui est important.
Il y a un aspect prédictif qui est très important, et il y a effectivement un aspect qui est relié à ces fameuses symétries qu'on appelle internes, c'est-à-dire ce sont des symétries qui ne se manifestent pas directement dans le monde macroscopique. Effectivement, on a prédit l'existence d'un nouveau type d'interaction qui était les interactions faibles neutres, les courants neutres, qui sont reliés à un partenaire, disons, des bosons W qui, eux, sont responsables de l'interaction faible de la radioactivité naturelle.
On va en parler tout à l'heure. Michel, allez-y.
Oui, juste pour mieux répondre à votre question, l'abondance des particules qui était observée dans les années 60 a pu être réduite à une douzaine de particules élémentaires qui s'assemblent en suivant ces lois de symétrie pour constituer une jungle de particules composées.
Et un zoo de particules, c'est le nom qui était employé un petit peu dans les années 50. Et du coup, on arrive un petit peu au début des années 60 et à ce modèle, en fait, version 1963. où il y a justement une question et un problème avec ce troisième groupe de particules qu'on a mentionné. Donc les bosons de jauge n'ont pas de masse si on suit le modèle version 1963, sauf que c'est pas possible. Fabrice Couder, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, d'où vient ce problème de la masse et où est-ce qu'on s'est retrouvé finalement un petit peu bloqué avec ce modèle qui fonctionnait très bien avec cette belle symétrie?
Ouais, alors le problème de la masse vient essentiellement de la symétrie. Alors on a une symétrie effectivement qui nous impose d'avoir des bosons de masse nulle, et ça marchait très bien pour l'interaction électromagnétique. Donc le photon est une particule qui médit l'interaction électromagnétique et qui est à très longue portée. On reçoit des photons qui viennent du Soleil. Le problème des bosons W, quand on a voulu expliquer ce type d'interaction avec...
Ils n'étaient pas encore découverts, les bosons W.
Qui étaient... On n'avait pas les bosons W, mais on connaissait la radioactivité, disons.
Mais on savait qu'ils allaient être là.
On
c'est un
savait
petit peu
qu'il y avait
la beauté
ce type d'interaction,
modèle.
En tout cas. Donc, quand on a voulu expliquer ce type d'interaction par une symétrie type électromagnétique, on s'est retrouvé face à un problème qu'on prédisait l'existence de nouveaux bosons, comme le photon, mais qui devait être de masse importante, puisque l'interaction faible est à très courte portée. On ne voit pas de bosons W se balader dans l'univers. Donc effectivement, là, il y avait un problème certain qui a été résolu un petit peu plus tard. Ouais.
France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
Et on en arrive justement en 64, parce que pour rendre ça possible, il fallait casser la symétrie. Deux papiers distincts, l'un signé des Belges Robert Brout et François Englert, et l'autre du théoricien anglais Peter Higgs, proposaient une solution. Michel Spiro, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle solution était proposée justement dans ces deux papiers?
Les champs tels qu'on les considérait jusqu'à l'époque du mécanisme de Brout, Englert et Higgs. Donc les champs jusqu'à là, on pouvait, c'est des objets mathématiques, hein, même si on pense qu'ils correspondent à la création et à l'annihilation de particules physiques, ce sont des objets mathématiques dont on peut calculer leur valeur moyenne dans le vide. Le vide, c'est l'espace dans lequel il n'y a aucune particule réelle qui se promène dedans. Et la valeur moyenne de tous les champs était considérée comme nulle à l'époque, pour des raisons de symétrie. Et le mécanisme de Brout, Englert et Higgs a imaginé une brisure de symétrie dans laquelle le champ qui correspond à la particule de Higgs, le boson de Higgs, aurait une valeur moyenne non nulle dans le vide. Ça paraissait un peu comme un sacrilège. Et ce mécanisme, par cette valeur moyenne non nulle dans le vide, confère au vide des propriétés tout à fait nouvelle, une espèce de viscosité, si vous voulez, que ressentent un grand nombre de particules, la plupart, et qui créent une inertie et qui leur donne une masse inertielle.
Peut-être une petite analogie, Fabrice Couder, justement, sur le rôle de ce champ, en fait, de Higgs. Est-ce que, on parle de viscosité, donc là, il y a une sorte de ralentissement. Est-ce que vous avez, je sais que vous avez une analogie, en fait, sur le cocktail mondain, une analogie célèbre de David Miller, pour expliquer justement comment ça fonctionne?
Oui, c'est une analogie qui fonctionne bien. Alors peut-être juste pour revenir sur les deux papiers. En fait, il y a un troisième papier en 1964 qui est Guralnik, Hagen et Keeble.
C'est et les donc, trois autres noms, justement.
Exactement. Et donc, faut peut-être pas les oublier.
J'allais le mentionner, mais allez-y.
Et donc, oui, donc cette analogie nous explique un petit peu à la fois comment le mécanisme de Higgs donne une masse aux particules et comment le Higgs lui-même acquiert sa propre masse. Donc il s'agit d'imaginer un cocktail mondain dans lequel rentre une personne, on va dire, assez peu connue. Donc cette personne traverse la salle pour aller jusqu'à la table des festivités et sur son passage rencontre des personnes et se met à discuter. Donc en fait, le poids, en gros, de la masse de cette personne représenterait le nombre de personnes qui va se mettre à discuter avec elle.
Et l'empêcher d'aller jusqu'au buffet.
En tout cas, le nombre de personnes qui va s'agglutiner autour de cette personne pour aller jusqu'au buffet. Donc ça, c'est un petit peu la masse. Et l'interaction, finalement, c'est la discussion entre ces différentes personnes. Une personne un peu plus connue rentre dans la salle. Brad Pitt rentre dans la salle, se traverse.
J'allais dire Einstein, mais Brad Pitt okay aussi.
Ça fonctionne aussi. Et effectivement, là, d'un seul coup, beaucoup plus de personnes vont s'accumuler, beaucoup plus d'échanges verbaux vont prendre place. Et donc, Brad Pitt a une masse plus importante que la personne qui rentre avant, par exemple moi, je ne sais pas, et qui va se déplacer jusqu'à la table des cocktails. Donc, et la dernière analogie qui marche très très bien, c'est un petit malin qui, à l'entrée de la salle, dit tiens, Macron est en train d'arriver, il passe, il arrive, il va aller jusqu'à la table des cocktails, et la rumeur se propage. Et donc, en fait, autour de la rumeur s'agglutinent des personnes qui discutent d'un objet qui n'est pas vraiment là. Et donc, cet objet, la discussion elle-même, si vous voulez, prend une masse, qui est le nombre de particules qui discutent entre elles. Et donc, cette analogie-là, en gros, c'est le boson de Higgs.
Ça peut être autant la rumeur que la personne un peu ralentie.
Exactement.
En fait,
c'est pas tant qu'elle est ralentie, c'est qu'il y a un grand nombre de personnes qui s'accumulent autour.
Il y a ce postulat aussi sur le champ, et pour qu'on puisse bien comprendre, c'est un champ qui remplirait tout l'espace et qui interagirait avec les particules. Est-ce que c'est pour ça que la particule, donc le boson de Higgs, est parfois nommé particule de Dieu, pour son caractère un petit peu omniprésent, en fait, finalement, Michel Spirou?
Je crois que c'était excessif de parler de particules de Dieu. Je pense que c'est plutôt une traduction qui a été abusive d'un directeur américain qui s'appelle Lederman, un physicien prix Nobel, qui, si je ne me trompe pas, avait dit « God damn particles », c'est-à-dire « sacrées particules ».
Ah oui, donc c'est une mauvaise traduction.
Je crois que c'est une mauvaise traduction. C'est quand même la seule particule qui est associée à un champ qui a des propriétés tout à fait hors de toutes les autres, à savoir une valeur moyenne non nulle dans le vide, la particule associée à un spin zéro, c'est-à-dire pas de moment angulaire intrinsèque, c'est ce qu'on appelle un scalaire, et qui présente d'ailleurs des problèmes mathématiques considérables à l'époque, hein, qui ont été petit à petit résolus, parce que d'introduire cette particule avec le modèle standard, les gens se posaient la question si on était capable de faire réellement des calculs, s'il n'apparaissait pas des infinités à droite à gauche, et il a fallu un certain temps pour montrer que la théorie était cohérente mathématiquement. Donc ça a troublé beaucoup les gens, une particule de spin zéro, un scalaire.
Et comment ça a été reçu finalement un petit peu ces papiers, ces trois papiers?
Ah ben, ça dépend. Bon, pour la majorité des gens, on s'est pas rendu compte qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire dans la théorie. Mais certains, comme Glashow, Weinberg et Salam, ont intégré ce mécanisme qui donnait une particule à ce qui était le modèle standard sans masse, et ils ont fabriqué le nouveau palier de la connaissance qui est le modèle standard aujourd'hui. Et c'était
augmenté
vers 68, quelque chose comme ça, donc quelques années après l'invention de ce mécanisme. Et là, ça a démarré vraiment une nouvelle physique avec un modèle cohérent qu'on pouvait calculer. Et petit à petit, on vérifiait expérimentalement les prédictions que donnait ce modèle standard. Au début, avec une précision de 10%. Ça a été la découverte des courants neutres, notamment par André Lagarrigue au CERN, qui aurait eu le prix Nobel si malheureusement il n'était pas décédé d'une crise cardiaque.
C'est la question de Brout aussi, finalement, pour cette
découverte. Oui, Brout, c'est la même chose, il n'a pas eu le prix Nobel. Mais ça a été la première grande découverte du CERN, qui était en 72-73. Et ensuite, il y a eu la découverte des bosons intermédiaires, donc les particules équivalentes aux photons, mais cette fois-ci pour l'interaction faible. Les bosons intermédiaires sont pour l'interaction faible ce que sont les photons pour l'interaction électromagnétique. Mais les photons ont une masse nulle, alors que les bosons intermédiaires ont une grande masse. Ils ont été découverts au CERN par Carlo Rubbia, notamment. Moi, je participais à cette expérience. Et ça, c'était une deuxième grande confirmation du modèle standard. Et ensuite, il y a eu la grande machine de 27 km de circonférence. Vous avez dit le LEP, moi je l'appelle le LEP, mais enfin c'est la même chose. Électron-positron, qui a commencé à faire un tas de mesures au niveau du pourcent. Et même à rechercher le boson de Higgs qu'on a cru trouver à un moment au LEP en 2000. Mais c'était une fausse, c'était une illusion.
Donc il y a eu beaucoup de preuves finalement apportées pour confirmer finalement ce modèle standard. Un petit mot sur justement peut-être les autres théories, Fabrice Coudert. Est-ce qu'il y a eu d'autres théories qui ont existé, parce qu'on parle de celle-ci parce que maintenant elle s'est vérifiée, mais est-ce que à cette époque il y avait justement d'autres solutions proposées pour répondre à ce problème de la masse, ou alors était-ce celle-ci la plus séduisante finalement? À partir de là, c'est toujours
alors,
difficile de le voir.
D'autres théories, il y avait plein de théories à l'époque. pas nécessairement pour la partie interaction faible. Donc la partie interaction faible, soit on essaye de la décrire par ce qu'on appelle une interaction de jauge, donc une interaction qui répond à des symétries bien précises, et là on tombe sur le problème de la masse, ou alors on le fait en mettant directement une masse au boson dans les calculs, et là on tombe sur des problèmes mathématiques assez difficiles. En fait, la théorie ne marche pas. Par contre, on avait beaucoup de théories au niveau de ce qu'on appelle la chromodynamique quantique ou des interactions fortes. Et d'ailleurs, une partie de ces développements était reliée à essayer de comprendre cette interaction forte, en particulier tout ce qui est brisure de symétrie, ce genre de choses, n'était pas nécessairement... C'est-à-dire que quand, par exemple, Brout et Englert ont regardé ce phénomène de brisure de symétrie, mais pas nécessairement... Pour la théorie électrofaible, en fait, eux, ils s'intéressaient, ils pensaient plutôt à d'autres choses. Alors que Higgs avait déjà un peu cette idée que ça allait s'attaquer à ce problème d'interaction électrofaible.
C'était ma question sur les contenus un petit peu des trois papiers. Donc on a cité Brout, Englert d'un côté, Peter Higgs qui fait un autre papier, et Hagen, Guralnik, Keeble, si je le prononce bien, qui font un troisième papier, c'est bien ça. Quelle était justement la différence un petit peu entre les contenus pour comprendre justement peut-être finalement la paternité en fait, attribué à Higgs? Est-ce que Peter Higgs voyait déjà la particule, en fait, et voyait peut-être déjà plus loin, ou est-ce que les trois papiers étaient trois angles différents de cette même brisure de symétrie?
Alors, les trois papiers sont effectivement un petit peu trois angles de cette brisure de symétrie, c'est-à-dire qu'ils notent un petit peu les mêmes choses. Donc, le point à l'époque, c'est que ces symétries devaient être brisées. Le problème, c'est que quand une symétrie est brisée, apparaît une particule de masse nulle, et on n'observe pas de particules de masse nulle, de scalaire de masse nulle, dans les expériences. Et en fait, ce qu'ils ont tous finalement noté, c'est que, par la propriété vraiment spécifique de ces symétries, ces particules de masse nulle pouvaient être intégrées dans les bosons intermédiaires, et leur donner à la fois une masse, et un spin, enfin une projection longitudinale. Bon. Et donc les trois notent cette possibilité, donc de donner une masse au boson intermédiaire, mais c'est vrai que le seul à noter qu'associé, il y a également une particule scalaire de masse non nulle, c'est dans le papier de Higgs. Après, c'était pas quelque chose nécessairement d'inconnu dans les brisures spontanées de symétrie, mais c'est lui seul, disons, le met dans son papier, quoi.
C'est peut-être ça l'importance derrière de la paternité qu'on a attribuée en fait indirectement.
Et après, peut-être, oui, c'est vrai qu'on...
C'est difficile de savoir
un petit peu d'où vient le...
C'est ce qui s'est passé, Michel Spiro.
Oui, alors au Conseil du CERN, donc dans les années 2010, on a essayé de donner notre position par rapport aux appellations, et on a considéré que quand même, ceux qui avaient été les premiers à imaginer ce mécanisme de brisure de symétrie, c'était Brout, Englert et Higgs. Donc nous, on appelle, en tout cas en Europe, c'est comme ça qu'on fait.
Et BHE.
BEH.
C'est
le mécanisme de Brout, Englert et Higgs. Par contre, la particule, comme l'a dit Fabrice, c'est vraiment Higgs qui a eu l'idée qu'il y avait une particule associée au champ et qu'il fallait la chercher. Et ça, c'est Peter Higgs. Donc on a appelé la particule de Higgs.
La particule de Higgs.
Boson de Higgs.
Dernière petite question, justement, sur cette partie théorique. Est-ce que, donc, on a compris que le modèle standard était abouti dans les années 70, qu'on a fait des découvertes. Est-ce qu'il y a eu des preuves indirectes, en fait, directement de l'existence de Higgs au-delà de la simple vérification du modèle standard, Michel Spiro? Est-ce qu'il y avait des pistes ou est-ce qu'il fallait forcément aller le détecter pour pouvoir le voir?
Bon, il y avait toujours des modèles alternatifs au modèle standard, mais qui étaient moins élégants. Jusqu'à présent, l'histoire de la physique nous montre que ce qui est simple et élégant est vrai. Enfin, triomphe par rapport aux autres modèles un peu artificiels. Donc, ce modèle surpassait les autres. Donc, la grande machine qui a émergé dans les années à la fin des années 80, c'est le LEP, comme je l'ai dit, le LEP, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là a commencé vraiment, d'abord, les tests de précision du modèle standard, des dizaines de tests. Hein.
Donc de vérifier les valeurs.
De vérifier les valeurs, par des mesures diverses et variées.
Les valeurs de la masse, les valeurs...
Plus que ça, des interactions entre particules, la fréquence de ces interactions, on pouvait la calculer, tout était calculable avec le modèle standard. surtout qu'on avait vraiment maîtrisé la mathématique derrière. Et on pouvait calculer donc tout ce qu'on observait, et ceci se vérifiait de plus en plus. Au point que on pouvait commencer à avoir des estimations sur la valeur de la masse du boson de Higgs, parce que même si on pouvait pas le produire et l'observer directement, le vide est rempli de particules qu'on appelle virtuelles, c'est-à-dire qu'avec ces champs, on peut les créer et les annihiler presque aussitôt après, et ça intervient dans les processus d'interaction. Pouf, vous créez un boson de Higgs et puis vous le réabsorbez, vous le voyez, vous n'avez pas le temps de le voir, mais il intervient dans les calculs, parce que c'est une manière de passer d'un état initial à un état final. Et donc le LEP, notamment, on voyait commencer à avoir des idées sur ce que devait être la masse du boson de Higgs. Et en particulier, il pouvait prédire qu'elle était inférieure à 200 GeV, disons que 200 fois la masse du proton.
C'est l'endroit où cherchait la première partie de notre histoire est faite. Le boson de Higgs est théorisé. Comment va-t-il être finalement détecté? C'est la suite de notre programme, juste après ça.
Can't remember anything at all. Flame trees line the streets. Can't remember anything at all. But I'm driving my car down to Geneva. I've been sitting in my basement patio. It was hot up above. Girls walk past, their roses all in blue. Have you ever heard about the Higgs boson blues? I'm going down to Geneva, baby. Gonna teach it to you. Who cares? Who cares what the future brings? Black road long, and I drove and drove. I came upon a crossroad. The night was hot and black. I see Robert Johnson with a $10 guitar strapped to his back, looking for a tune. With his canon law and 100 black babies running from his genocidal jaw. He got the real killer groove, Robert Johnson and the devil man. Dunno who's gonna rip off who. Driving my car, flame trees on fire, sitting and singing the Higgs boson blues. I'm tired, I'm looking for a spot to drop.
Higgs boson blues de Nick Cave and the Seed sur France Culture. Nous parlons de la découverte du boson de Higgs en compagnie de Fabrice Coudert, chercheur au service de physique des particules du CEA Saclay, spécialiste de la physique du boson de Higgs et membre de la collaboration CMS, on va y venir, et Michel Spiro, président du conseil de la fondation CERN et Société et ancien président du conseil du CERN de 2010 à 2013. J'aimerais comprendre un petit peu la question de la détection. Fabrice Coudert, dès le moment où ça a été théorisé, il y a eu forcément peut-être un enjeu de vouloir un jour la détecter.
ou pas.
Le boson de Higgs ?
Oui, le boson de Higgs, absolument.
Oui, alors on a toujours vu le...
Théoricien expérimentateur se parle dans ces cas-là.
Détecter, ouais. Néanmoins, je pense que c'était dans les années 70, John Ellis disait, donc un théoricien du CERN, disait que l'interaction est trop faible, on le verra jamais, c'est même pas la peine d'essayer. Et effectivement, ça a pris 50 ans. Donc effectivement... Il n'a pas nécessairement été cherché tout de suite.
Dès le début.
Il a fallu d'abord établir le modèle standard, donc on a déjà parlé, les bosons W, ensuite le LEP, la découverte du quark top, qui a été un petit peu nécessaire justement pour prédire cette masse. Et à partir de là, vraiment, on a pu se mettre sérieusement, je dirais, à la recherche du boson de Higgs, à la fin du LEP, quoi.
Et quel est un petit peu, Michel Spiro, le panorama des infrastructures en physique des particules au moment de la théorisation du boson de Higgs et juste après ? De quoi on dispose finalement pour étudier un petit peu la physique des particules dans les années 70 ?
Dans les années 70, on va commencer à voir ce qu'on appelle le superproton synchrotron, qui sera une machine qui commencera à tester le modèle standard, avec notamment la découverte de ce qu'on appelait des courants neutres, c'est-à-dire indirectement les interactions des neutrinos à travers les bosons intermédiaires WZ. Donc ça a été une première confirmation dont j'ai parlé avec la contribution majeure du CERN et d'André Lagarrigue. C'est également les diffusions d'électrons ou bien de neutrinos, on teste le modèle standard. Mais le vrai tournant, ça sera... En parallèle, la transformation de cette machine de synchrotron à proton de 400 GeV en une machine de collisionneur, en un collisionneur proton-antiproton, début des années 80-81, qui permettra de découvrir les bosons intermédiaires WZ, responsables des médiateurs des interactions faibles, dont on avait prédit la masse exactement avec le modèle standard, et qui ont été découverts en 83, exactement à la masse attendue, et avec les schémas attendus de production et de désintégration. Et en parallèle, le LEP se construisait, la machine de 27 km de circonférence, avec les premières collisions en 89. Et donc là, des tests qui vont être de plus en plus de précision. Le boson de Higgs, on savait déjà qu'il devait avoir une masse inférieure à 1000 GeV. Mais le LEP ne pouvait explorer le boson de Higgs que jusqu'à 200 GeV indirectement. Donc il pouvait dire que sa masse était inférieure à 200 GeV. Et il pouvait le trouver, vraiment le produire, que si sa masse était inférieure à 110 GeV en gros.
Avant de venir justement à ces premières peut-être potentielles détections, j'aimerais faire un tout petit point sur la question des collisionneurs et des accélérateurs de particules. Qu'est-ce qu'on cherche finalement à détecter et comment ça fonctionne en fait ? Quel est le principe de détection ? Comment est-ce qu'on imagine pouvoir détecter le boson de Higgs de manière plus générale ?
Donc un collisionneur particules, c'est un accélérateur circulaire qui fait tourner dans un sens et dans l'autre, deux faisceaux de particules qui vont collisionner en certains points, 10 points de collision. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir le taux de collision le plus important et en général l'énergie de collision également la plus importante. Alors pourquoi on cherche des énergies de collision importantes ? Donc je pense que tout le monde a entendu parler de la relation E égale MC2 qui nous donne une équivalence entre l'énergie et la matière. Et d'un point de vue quantique, ça veut dire qu'on peut transformer de l'énergie en matière et de la matière en énergie. Ce qui se passe dans un collisionneur particules, on prend des particules de masse très faible, on les accélère le plus fort possible pour avoir beaucoup d'énergie. Et au niveau de la collision, l'énergie est réalisée en plusieurs particules qui peuvent potentiellement être très massives. Donc on a transformé de l'énergie importante en masse, ce qui nous permet d'étudier des particules très massives.
Il y a des détecteurs pour le faire.
Et autour de ça, on met des détecteurs. Et les particules les plus massives vont se désintégrer quasiment instantanément au niveau de la collision en des particules beaucoup moins massives qui, elles, vont avoir un temps de vie suffisant pour atteindre des détecteurs. Donc tout le jeu, c'est d'essayer de reconstituer le puzzle de la collision. On mesure des particules auxquelles on va attribuer une certaine identité et certaines propriétés cinématiques. Et à partir de là, on va essayer de retrouver les propriétés de la particule mère qui a été créée au niveau de la collision.
Et là, on comprend la question de la puissance, finalement. Il y a une puissance nécessaire pour pouvoir étudier une particule qui soit très éphémère ou très peu puissante. C'était la question qui s'est posée justement au LEP. Vous commenciez à en parler justement sur le fait qu'on avait commencé à pouvoir entrevoir peut-être une gamme et un champ des possibles au sein du LEP, mais peut-être pas avec une certitude suffisante, c'est ça, Michel Spirou?
Oui, donc le LEP, c'était un collisionneur d'électrons et de positrons. Donc les électrons tournaient dans un sens, les positrons dans l'autre sens. Et on cherchait la possibilité qu'un électron et un positron se collisionnent et produisent simultanément un boson de Higgs et un boson Z0. Donc le boson Z0 a une masse de 90 GeV. Hein. La masse du proton, c'est 1 GeV à peu près. Donc c'est 90 GeV,
giga électron volt.
Donc 90 fois la masse d'un proton. Donc le Z0 était bien connu, avait été étudié lorsque on faisait des collisions et plus et moins donne Z0 dans les années 90. Et fin des années 90, on avait monté l'énergie du LEP de sorte qu'on pouvait produire à la fois un Z0 et peut-être un boson de Higgs. Et on était arrivé à une énergie donc électron-positron de 200 GeV. Donc avec un boson Z0 de 90 GeV, on pouvait espérer le voir associé à un Higgs jusqu'à 110 GeV. On n'avait rien vu encore lorsque on était à 200 GeV. Donc on pouvait exclure que le Higgs ait une masse inférieure ou égale à 110 GeV. Et puis dans la dernière année, on est monté à 215 GeV, à peu près 210 GeV, 14 GeV. Et il y avait un excès à ce moment-là où on pouvait voir quelques collisions où on voyait un boson de masse Z, 90 GeV, et puis peut-être associé à lui un boson de Higgs de masse 114 GeV. C'était là où il y avait un excès d'événements. C'était vraiment la queue de distribution, parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin, on saturait pratiquement l'énergie disponible. Et donc il y avait un petit excès, on dirait un excès de 2 sigma, on reviendra peut-être sur ce que ça veut dire
par
rapport aux 5 sigma de la découverte du boson de Higgs.
C'est l'incertitude,
de 2 sigma. À l'époque, je présidais le conseil de scientifique de cette machine, du LEP. Et toute la question était de savoir, est-ce qu'on allait continuer à faire tourner la machine en montant encore un peu en énergie pour avoir un peu plus d'aise pour produire le boson de Higgs en association avec un Z0? Ou bien est-ce qu'on arrêtait? Parce que, au même moment, les compagnies qui faisaient le génie civil pour la machine suivante, le LHC, le collisionneur de proton-proton, dans le même tunnel, on devait creuser les puits dans lesquels on mettrait des détecteurs. Et si on continuait, on allait avoir des pénalisations financières pour arrêter les travaux qui conduisaient à creuser les cavernes où se trouvaient les grands détecteurs du LHC. Et donc le directeur général.
Arrêter ou ne pas arrêter, finalement.
Voilà, arrêter ou ne pas arrêter. Et donc, bien sûr, c'est le directeur général, Luciano Magnani, qui prenait la décision. Mais le conseil de scientifique que je présidais du LEP a trouvé quand même que les indications à 2 sigma, entre parenthèses, n'étaient pas suffisamment convaincantes pour retarder le programme du LHC, avoir des pénalisations financières et peut-être se retrouver 2-3 ans après dans des conditions où on serait toujours avec un point d'interrogation s'il existe ou s'il n'existe pas. Donc j'avais fait une recommandation négative aux grandes dames des physiciens qui travaillaient sur les expériences LEP, qui m'ont valu d'avoir des affiches placardées avec écrit en lettres de sang « Spiro m'a tué ER » à l'époque où il y avait une...
Justement, cette affaire-là.
Cette affaire.
Donc il y avait une certaine hostilité qu'on peut aussi entendre quand on travaille justement sur le LEP.
C'est un jeu de rôle. Hein. Moi, j'en ai pas voulu à ceux qui m'attaquaient. On était chacun dans notre rôle, si on peut dire.
Il a donc fallu construire un autre accélérateur de particules, le LHC, le grand collisionneur de Hadron. Il est mis en marche en 2008, une archive du 20h de France 2.
2 heures de manipulation pour mettre en place la toute dernière pièce du puzzle. Et quel puzzle ! Le plus grand accélérateur de particules au monde. Un cylindre de 27 km à 100 mètres sous terre. À l'intérieur de ce cylindre, des petits bouts d'atomes, des protons. Ces protons vont prendre de la vitesse, accélérer jusqu'à atteindre 300 000 km/s et s'écraser les uns sur les autres. Ainsi, les scientifiques recréent les conditions du Big Bang qui fut peut-être à l'origine de notre univers. Objectif : percer les plus grands secrets du cosmos. Les scientifiques espèrent aussi résoudre d'autres énigmes, anodines pour nous, mais fondamentales pour eux. Par exemple, pourquoi les particules ont-elles une masse ? Pour y répondre, cette machine, Atlas, un super détecteur, 46 mètres de long, 25 mètres de diamètre, 7000 tonnes, des millions de petits capteurs.
Les particules ont une masse, donc il y a une origine. Il y a quelque chose qui génère la masse. Ça, c'est certain. Ce que c'est, on va le trouver.
Au bout du tunnel, pas d'application industrielle, juste de la connaissance pure. On appelle ça de la recherche fondamentale qui pourra servir demain, comme dans 10 ans, ou même jamais.
Je me permets de le souligner, mais la recherche fondamentale est toujours utile. On entend que la détection du boson, ici, finalement, Fabrice Couder, est presque secondaire. Est-ce que c'était vraiment le cas, en fait, au moment où on commençait à travailler sur cette question avec le LHC1, j'entends?
Est-ce que la détection était secondaire?
Est-ce que l'enjeu, en fait, de détection du boson de Higgs pour le LHC était secondaire ou ça faisait partie des chemins un peu primaires?
Non, je pense que c'était un enjeu fondamental. Par contre, effectivement, comme on l'a entendu, et on va la trouver, il y avait une forme de ce qu'on appelle un no-lose theorem, donc pas de possibilité de perdre, c'est-à-dire que soit on trouvait le boson de Higgs, soit on ne le trouvait pas, mais dans ce cas-là, le modèle standard était incomplet et il fallait absolument trouver autre chose. Donc on s'attendait quand même à trouver quelque chose qui expliquait comment les bosons intermédiaires acquéraient leur masse et pourquoi elle était de cet ordre-là.
Donc dans tous les cas, vous étiez gagnant. Parce qu'en fait, si on ne trouve rien, c'est qu'on trouve quelque chose.
Puisque quand on arrive à la fin du LED dans les années 2000, on sait que si le Higgs existe, sa masse doit être de 90 GeV plus ou moins 30. Donc en gros, au-delà, si on n'avait rien trouvé jusqu'à 200 GeV, le modèle standard était vraiment très... sans difficulté, disons.
On entend la mention aussi d'Atlas dans cette archive du 20h de France 2. C'est l'un des détecteurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les instruments qu'il y a justement dans le LHC, Fabrice Couder, et ceux qui ont un rôle crucial justement dans la détection du boson de Higgs?
Oui, alors dans le LHC, tout d'abord, on a quatre points de collision. On a deux points de collision qui sont dédiés à des expériences dites généralistes, dites Atlas et CMS. Donc, ils vont étudier la physique du boson de Higgs, la physique au-delà du modèle standard, etc. On a une expérience qui s'appelle LHCb, qui, elle, étudie les propriétés des quarks B, et des mesons et baryons associés. Et une dernière expérience qui s'appelle Alice, qui, elle, s'intéresse vraiment aux collisions d'ions pour recréer, en fait, les conditions du Big Bang et essayer de comprendre la matière nucléaire, on va dire.
Donc il y a plusieurs enjeux, le boson de Higgs n'est pas le seul objectif au départ forcément de la construction du LHC. Michel Spiro, pour construire ce LHC, est-ce qu'on s'est servi du LEP? Comment est-ce qu'il a été construit en fait finalement?
C'est un collisionneur de protons, ce qui est très différent d'un collisionneur d'électrons-positrons.
Expliquez-nous pourquoi.
Alors électrons-positrons, la difficulté principale c'est que les électrons lorsqu'ils tournent, comme ce sont des particules très légères, par rapport aux protons, il rayonne énormément. D'ailleurs, ce rayonnement est utilisé dans des machines nombreuses au monde pour faire de la lumière qui sert à explorer la matière. Donc les électrons, le problème, c'est qu'ils perdent de l'énergie lorsqu'on les accélère. Et donc on est sans cesse en train de les accélérer et de dépenser de l'énergie, beaucoup
là,
d'énergie.
On veut de l'énergie, justement. Ouais.
Et donc c'est très limité. Finalement, on est monté à 200 GeV maximum avec en électron-positron, alors qu'avec les protons, on peut, comme ils sont beaucoup plus lourds, ils rayonnent pas et on peut continuer à les accélérer et on monte jusqu'à 14 000 GeV, donc beaucoup plus qu'avec des électrons-positrons et on rencontre encore peu de problèmes liés au rayonnement des protons. Mais par contre, le problème qu'on a, c'est la rigidité, c'est-à-dire que les protons, plus on les accélère, plus ils ont tendance à vouloir quitter par la tangente. Donc il faut les maintenir sur une orbite circulaire.
Avec des aimants,
et donc l'enjeu, c'est des aimants. Donc c'est la technologie des aimants qui a été développée à son maximum en utilisant des aimants refroidis par de l'hélium superfluide. Donc l'hélium superfluide, c'est un état quantique à très basse température de l'hélium. Et donc on a une espèce d'état quantique de refroidissement qui est sur 27 km de circonférence. Et il est réparti, un état quantique qui est réparti sur 27 km, c'est quand même un exploit.
Et j'ai un peu les chiffres aussi, 232 aimants dipolaires de 15 mètres de long pour justement la trajectoire des faisceaux, 392 aimants quadripolaires de 5 à 7 mètres de long qui concentrent les vaisseaux. On voit que c'est un enjeu technique en fait, immense, et on voit aussi la question collaborative en fait derrière ça. Pour la construction du LHC, ce sont 10 000 personnes qui ont participé, 100 nationalités différentes. Est-ce qu'on avait déjà vu vu un projet aussi grand, en fait, en physique ou...
Non, c'est le plus grand projet en physique qui ait jamais été réalisé. Bon, le LEP, à son époque, était déjà le plus grand projet, mais là, on est encore un ordre de grandeur au-dessus de ce qu'était le LEP. Et donc, c'est un modèle de collaboration internationale. Le CERN avait un acquis, c'est ça qui a permis la suprématie des...
Il existait déjà à ce moment-là, en fait.
Oui, parce qu'avec le LEP, on avait déjà une collaboration mondiale, ce que les Américains ne savaient pas faire. Parce qu'avec leur Make America First Again, ils ont pas le savoir-faire de collaboration mondiale.
Oui, mais on peut citer quand même le fait que les États-Unis... ont aidé pour justement trouver cette gamme de masse pour le boson de Higgs, mais ils avaient un projet en fait de superconducting super collider, donc aussi également un collisionneur qui a été arrêté. Donc cette compétition en fait là n'existait pas avec les États-Unis.
Mais il a été arrêté parce que les Américains ne savent pas faire monter une collaboration mondiale autour d'un projet, c'est clair, alors que le CERN avait cette expérience-là, depuis sa création et avec le LEP particulièrement. Et donc c'est pour ça que le LHC l'a emporté sur la machine américaine, parce qu'on savait mettre au point une communauté mondiale, collaborative, ouverte.
Et la financer, en fait, parce que c'est un petit peu l'enjeu.
Et tous les outils de collaboration qui ont été développés par le CERN, le web... Le premier outil qui a transformé le monde a été créé à l'époque du démarrage du LEP. Et ensuite, avec le LHC, des outils majeurs de management de projets mondiaux. Et c'est ce savoir-faire, plus le savoir-faire technique des aimants supraconducteurs, refroidis à l'hélium superfluide, qui avait été développé notamment pour la fusion, qui a permis au CERN de tirer les marrons du feu.
France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
Le LHC est lancé en 94 avec un démarrage en 2008 et on en arrive au grand jour. Le mercredi 4 juillet 2012, à 9h, le CERN organise une conférence pour annoncer les derniers résultats du LHC.
Il s'agit d'un résultat très préliminaire. Mais nous pensons qu'il est très solide, sinon nous ne le présenterions pas. Au fur et à mesure que nous recueillons des données, nous avons peu à peu redécouvert le modèle standard au travers de plus en plus de processus rares. Et nous sommes maintenant très confiants dans notre capacité à aller chercher ce qu'il y a de plus rare, le boson de Higgs. Si nous combinons le ZZ et le gamma-gamma, voici ce que nous obtenons. Ils s'alignent extrêmement bien. Et dans la région de 125 GeV, ils se combinent pour nous donner une signification combinée de 5 écart-types.
En tant que non-spécialiste, je peux le dire maintenant. Je pense que nous l'avons.
Sous les applaudissements, on entend Joe Nkandela, porte-parole de l'expérience CMS, et Rolf Höyer, directeur général du CERN à ce moment-là. Petite question un peu pratico-pratique, Fabrice Couder. Il fallait se lever très tôt pour être dans la salle, d'après ce que je comprends. Tout le monde était au courant qu'il y allait avoir ces présentations de résultats, mais tout le monde ne pouvait pas y entrer.
Oui, non, c'était un petit peu compliqué. Il fallait se lever très très tôt. Moi, personnellement,
et vous l'avez pas fait.
Je ne me suis pas levé.
Michel Firo, vous étiez dans la salle à ce moment-là, devant, et vous êtes peut-être encore un peu ému d'entendre encore cette annonce et cette ovation. Vous étiez au courant de l'intégralité de ce qui allait être annoncé?
Non, le directeur général était au courant de l'intégralité. Il avait convoqué les deux porte-paroles pour savoir à l'avance ce qu'ils allaient annoncer et pouvoir faire la conférence de presse. Moi, j'étais au courant quelques jours avant. Lui, il était au courant quelques semaines avant de ce qui allait se dire.
Et les différentes collaborations, donc CMS et Atlas, n'étaient pas au courant des résultats de l'autre.
Oui, exactement. Seul le directeur général... Et moi-même, un jour ou deux avant, étions au courant. Mais c'est vrai que c'était comme un concert de rockstar. Il y avait une queue à l'entrée qui s'était développée des heures et des heures avant le démarrage du séminaire, qui était pourtant retransmis dans énormément de salles au CERN et dans le monde entier.
Vous avez envie d'être là. On savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer.
On se doutait quand même que ça allait être annoncé, mais on n'avait pas tous les détails.
Un petit détail peut-être juste sur ce qui a été présenté exactement, Fabrice Couder. On entend dans ce qui est maintenant une archive en fait de la conférence, le caractère encore très préliminaire et les précautions qui sont employées.
Oui,
on entend un résultat encore très très préliminaire. On entend le sigma.
Tout à fait. Néanmoins, Je pense que là, on était quand même vraiment sûr. Hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est allé très vite, finalement, puisqu'on a eu des premiers résultats en 2011, en décembre 2011. Si
est-ce que c'est arrivé plus rapidement que prévu, finalement?
Plus rapidement que prévu, ouais. Oui, on a été plus malin que ce qui avait été prévu pendant les phases de prospective. Et ce qui est normal, hein, puisqu'au début, on s'attache plus à faire la machine et à réaliser
le
détecteur
et
le projet. Et puis, une fois qu'on a les données, en général, on est toujours un peu plus... on cherche plus et du coup, on trouve. Et donc, oui, effectivement, en décembre... on savait déjà que la masse du boson de Higgs devait être en dessous de 130 GeV, en gros, je crois. Donc, on avait le LEP qui nous disait au-delà de 114, les données qu'on avait accumulées déjà en 2011 qui nous disaient en dessous de 130. Donc, il y avait une possibilité assez réduite, finalement, pour la masse du boson de Higgs. Et on avait déjà, en décembre, je me souviens, un petit excès, enfin... 2 sigma, en gros.
Encore ce 2 sigma, qui n'est pas encore suffisant qu'on avait au LEP.
Qui nous pointait déjà vers 125 GeV. Donc après, en 2012,
on a réduit la gamme encore.
On a réduit la gamme, puisqu'on avait commencé à prendre des données sur les premiers mois de 2012. Et donc, en analysant ces données et en rajoutant ces données à celles acquises en 2011, on avait de façon assez forte une évidence du boson de Higgs. Et on l'avait, chaque collaboration l'avait dès juin, puisqu'on avait nos résultats bien avant l'annonce, évidemment.
Mais il a fallu en fait cumuler finalement un peu les résultats ensemble de CMS et d'Atlas pour arriver à ce fameux 5 sigma. Michel Spirou, allez-y.
Juste, puisque Fabrice a fait allusion à décembre, en décembre, ils avaient eu effectivement une indication très marginale, mais par contre... Moi, c'était un grand soulagement en décembre, parce qu'ils excluaient que la masse du boson de Higgs puisse être 115 GeV, là où les expériences du LEP avaient indiqué un petit signal. Donc j'ai fait un grand ouf à ce moment-là.
Donc, il y a aussi la question peut-être du grand public et de l'appétence particulière pour cette découverte. On l'a entendu, on a utilisé une archive du journal de 20h de France 2 qui parle du LHC. On en aurait eu une aussi pour la découverte du boson de Higgs. Il y a aussi peut-être un enjeu dans cette découverte, le fait qu'elle ait dépassé en fait uniquement le monde de la physique des particules, Michel Spirou.
Donc il y a eu une conférence de presse qui s'est produite évidemment le jour même de l'après-midi de l'annonce, et effectivement ça a été repris par les médias du monde entier. Une enquête a été faite et on a estimé que 1 milliard de personnes dans la rue savaient que le boson de Higgs avait été découvert. Alors évidemment, si on leur posait la question de qu'est-ce que c'était que ce boson de Higgs,
c'était
un peu plus compliqué, mais elles sentaient que c'était un tournant dans l'histoire de l'humanité. C'était la découverte d'un nouveau continent, mais cette fois-ci un continent de la connaissance.
Et est-ce que d'autres expériences ont été conduites ensuite pour confirmer ces premiers résultats, Fabrice Couder, ou est-ce que la démonstration a été faite?
La démonstration était faite, je pense, c'est-à-dire que chacune des deux expériences avait les fameux 5 sigma, donc on était quand même très très sûr de nous. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que très rapidement, le LHC continue à prendre des données, hein, donc en 2012, et à la fin 2012, on avait un lot de données beaucoup plus important, et là, on a confirmé, on a tout confirmé en fait. On a confirmé la masse, on a confirmé l'existence, on a confirmé les premières mesures d'interaction entre le boson de Higgs et les bosons de Jauge, entre le boson de Higgs et les photons, et qui correspondaient toutes au modèle standard de façon, alors encore peu précise à l'époque, mais tout commençait à se mettre en place, en particulier les propriétés du boson de Higgs. On avait également pas mal de résultats là-dessus, sur son spin. On a parlé d'un objet scalaire la dernière fois. Voilà, ça c'était vérifié dès la fin de 2012.
On arrive un petit peu à la fin de cette émission. J'aimerais comprendre en fait ce qui arrive finalement maintenant. Est-ce que la découverte du boson de Higgs, vous vous entendez là, mais ça n'a pas mis fin en fait aux recherches à son sujet, Fabrice Couder?
Ah non, pas du tout. Le champ,
le début,
le champ de recherche s'ouvre. Donc, un des problèmes peut-être du modèle standard qu'on peut citer ici. Donc, Michel a parlé d'infini tout à l'heure. On sait que le modèle standard, finalement, est une théorie effective qui ne prend pas en compte la gravité et qui, forcément, doit inclure de nouvelles interactions à un moment ou à un autre pour expliquer les fameux infinis dont Michel parlait. Et ce qu'on sait, c'est que le boson de Higgs, sa masse, dans ce cadre-là, devrait être beaucoup plus élevée. En fait, elle devrait même aller à des masses très très élevées. Et on ne sait pas finalement comment stabiliser la masse du boson de Higgs d'un point de vue théorique à la valeur qu'on observe aujourd'hui, qui est relativement basse.
Est-ce que c'est une moyenne ou est-ce qu'il y a plusieurs bosons de Higgs ?
C'est une bonne question. Il y a beaucoup de modèles qui prédisent plusieurs bosons de Higgs, en particulier les modèles dits supersymétriques, qui expliquent justement le fait que la masse, au moins dans des bosons de Higgs, est relativement faible par l'existence de nouvelles particules qui vont protéger en gros la masse du boson de Higgs. Et dans ce cadre-là, on doit avoir plusieurs bosons de Higgs. Et pour l'instant, on n'en a observé qu'un seul.
Il y a encore beaucoup de questions en fait qui se posent, et beaucoup de questions cosmologiques, des questions sur l'asymétrie matière-antimatière. En 2013, François Englert et Peter Higgs reçoivent le prix Nobel. On l'a mentionné en début d'émission parce que Robert Wood était déjà décédé. Je ne vais pas citer l'intégralité de la raison du prix, mais le prix Nobel récompense uniquement des personnes, mais les expériences Atlas, CMS et l'ULHC sont citées. Donc finalement, ça récompense aussi une institution, et une institution qui a fonctionné, Michel Spirou.
Oui, puisque dans le libellé même du prix Nobel, attribué effectivement à François Englert et Peter Higgs, il est mentionné c'est pour leur découverte, c'est pour leur invention d'un modèle standard, d'une particule, l'existence d'une particule prédite, qui a été découverte par les expériences Atlas et CMS au CERN.
Mais c'est pas forcément
donc
courant.
C'est indirectement, à travers le libellé, une reconnaissance du prix Nobel qui est due au CERN, si on peut dire, et aux expériences.
Dernier petit mot justement sur cette question-là. Est-ce que cette puissance scientifique de ce type de collaboration internationale pourrait profiter et inspirer d'autres questionnements scientifiques que la physique des particules, Michel Spirou ?
Ben oui, moi j'essaye en tout cas dans les dernières années, à travers la fondation CERN et Société, mais moi-même aussi, de promouvoir ce modèle qui est un modèle de collaboration qui devrait pouvoir inspirer la manière de travailler pour atteindre par exemple le développement durable.
Un énorme enjeu actuel.
Voilà, pour découvrir et étudier le boson de Higgs, le CERN a mis en réseau des laboratoires du monde entier. Et actuellement, sur le développement durable, il y a une myriade de laboratoires qui travaillent de manière fragmentée, à la fois thématiquement et géographiquement, sur tout ce qui concerne le développement durable. Alors que c'est, il faut le voir d'une manière intégrée, à la fois tous les objectifs intégrés et puis intégrés du point de vue de la planète. Et je pense que ce modèle d'une orchestration par une organisation internationale de centaines, voire de milliers de laboratoires, pourrait être inspiré par le CERN et la découverte et l'étude du boson de Higgs, et servir directement au développement durable.
Merci à vous deux, Michel Spirou et Fabrice Couder, d'être venus nous raconter l'histoire de la découverte du boson de Higgs. Cette émission a été préparée par Loïc Dutoit. À la réalisation, c'est comme toujours Sam Bakiast. Et aujourd'hui, à la technique, c'était Dali Yaa. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres découvertes scientifiques qui ont changé le monde sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. On se quitte en musique sur une petite chanson pour une toute petite partie. Je me suis fait tout petit, de Georges Brassens.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau. Quand elle me sonne, j'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche, qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante, et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire, bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même pire. Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coup d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.